Chapitre 1er de l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, à nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous sommes peut-être étonnés de voir que le Seigneur notre Dieu nous avait élus avant la fondation du monde et que il avait établi avec précision un dessein bienveillant en lui-même, et il se réservait de le mettre à exécution à un certain moment quand les temps seraient accomplis. Dieu, vous savez, utilise les siècles, les millénaires. Ainsi, le royaume de Dieu a été préparé dès avant la fondation du monde. C'est bien ce que le Seigneur Jésus déclare aussi, le royaume de Dieu préparé dès avant la fondation du monde. Mais cette préparation allait donc loin, puisque nous avons été élus avant la fondation du monde. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Élus, cela suppose une désignation individuelle de chacun élu en particulier. Alors, vous voyez quelle précision, jusqu'où descendait cette préparation du royaume de Dieu. Alors, posons-nous la question de savoir pourquoi Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Bien sûr, les capacités de Dieu sont illimitées. Cela, il le pouvait très bien, n'allons pas discuter de cela. Mais il nous est peut-être nécessaire d'essayer de comprendre pourquoi Dieu a fait cela. Et pourquoi, d'ailleurs, maintenant, l'Écriture nous révèle cette préparation si minutieuse du salut des hommes. Eh bien, d'abord, Dieu n'improvise pas. Dieu n'improvise jamais. Le prophète Jérémie nous dit que Dieu a fondé le monde par sa puissance, par sa sagesse, par son intelligence. Dieu, le Père, qui est donc le souverain, le grand souverain, il est le Père des esprits, le Père des lumières, et Jésus-Christ, son Fils, est la parole de Dieu. Bien sûr, il participe à la divinité, il compose, pourrait-on dire, la divinité avec le Père et le Saint-Esprit, mais dans cette trinité, le Père détient la souveraineté. C'est donc lui qui pense les œuvres, les créations à accomplir, et c'est Jésus qui les accomplit. Il y a donc toujours un dessein préalable de Dieu. Seconde raison, elle nous est indiquée par le texte que nous avons lu. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire, pour que nous soyons pénétrés de la perfection sur laquelle le règne éternel est fondé. C'est une pensée que, ici à Père Guillaume, nous avons assez souvent l'habitude de reprendre, car elle est indispensable, il faut qu'elle soit là, présente à notre cœur. La perfection, c'est ce vers quoi nous sommes conduits, chers amis. Et chaque fois que nous faisons des écarts, et par écart, j'entends que nous prenons peut-être des mauvaises libertés, c'est-à-dire que nous prétendons pouvoir disposer peut-être de nous-mêmes dans un sens, dans un autre, céder à telle sollicitation du monde, à telle, la parole n'appelle pas sollicitation, elle dit convoitise, carrément. Céder, n'est-ce pas? Eh bien, j'appelle ça un écart. Chaque fois que nous faisons un écart, nous nous écartons de la marche que Dieu lui-même a mise en mouvement, de la voie du salut, autrement dit, qui est la voie vers la perfection, nous résistons à Dieu. Il faut savoir cela, chers amis. Nous sommes libres, mais non pas de faire n'importe quoi, nous sommes libres pour quoi faire? Pour obéir. Pour obéir, car pour obéir, il faut la liberté. Et Dieu nous donne la liberté évangélique. La liberté évangélique des enfants de Dieu, c'est la liberté d'obéir. Le Seigneur Jésus n'a pas obéi à son Père autrement que librement. Parce que, chers amis, si il n'y a pas la liberté, il n'y a pas non plus d'obéissance. S'il n'y a pas la liberté, il y a contrainte. Quand des soldats marchent en rang et sont conduits au commandement par des chefs, ils n'ont pas le droit d'aller cueillir des marguerites dans le pré à côté, n'est-ce pas? Il faut qu'ils marchent, ils sont obligés, sous peine de sanctions. Eh bien, ça, c'est pas l'obéissance. On dit que l'obéissance est la force principale des armées. En réalité, c'est pas une obéissance, c'est une contrainte. C'est une obligation. Tandis que Dieu, lui, veut une obéissance de nos cœurs. C'est dans nos cœurs que se forme l'obéissance, et cette obéissance, elle ne peut se faire qu'en utilisant la liberté d'obéir. Vous avez été appelés, tous les chrétiens sont appelés, appelés à quoi ? À obéir, à être saints et irrépréhensibles. Pour aboutir à cet état de perfection, Dieu doit prendre, attention c'est important, pour que nous allions à la perfection, ce qui est impossible à l'homme, Dieu doit prendre à lui la totalité de l'œuvre du salut. Pour ne laisser à l'homme qu'il sauve qu'une simple captation par la foi. L'homme n'a qu'à prendre, saisir par la foi. Et la foi est capable de cela. Mais attention, attention, une foi qui se maintient tout au long de la vie chrétienne, et une foi même qui s'affermit, une foi qui devient de plus en plus capable de comprendre, de saisir, c'est cette foi-là que le Seigneur désire. Ainsi donc, vous voyez, Dieu prend à lui la totalité de l'œuvre du salut, et le rôle qui est laissé à l'homme, la part laissée à l'homme, c'est de prendre librement. Vous pouvez refuser, vous pouvez prendre, mais si vous prenez, il faut prendre et continuer de prendre et prendre de plus en plus par la foi. Ceci, donc, nous montre bien que Dieu a toujours pris les devants. Dieu est toujours devant nous. Le Seigneur est devant nous. Il ne peut pas être derrière, il est devant. Dieu a toujours pris les devants. Il a toujours préparé le chemin sur lequel nous avons à marcher. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix, avant de rendre l'esprit, il a prononcé cette mémorable parole, « Tout est accompli, tout est accompli. » Et il avait dit précédemment, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Dans sa prière sacerdotale, chapitre 17 de Jean, verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il y avait donc bien un achèvement. Et tout était vraiment accompli de l'œuvre que Jésus avait à accomplir sur la terre. Comme je vous l'ai dit, il est la parole de Dieu, venu dans une humanité semblable à la nôtre. Cette humanité est son instrument, l'instrument d'accomplissement de la parole de Dieu. Tout simplement. Cette humanité lui sert, elle va devoir librement cette humanité. Attention, non pas elle contrainte par la divinité qui est là, mais librement elle va devoir lutter et vaincre. Et c'est ce qu'elle a fait. Et lorsque la croix, la mort expiatoire est consommée, alors tout est accompli. Christ, selon le dessein donc du Père, est venu sur la terre, il a vécu en homme, il a agi, parlé, lutté, et il est mort. Puis il a triomphé de la mort, et tout cela, c'est l'œuvre, elle est achevée, elle est accomplie. Si elle est accomplie, il ne reste plus rien à accomplir. Ce qui veut dire, nous n'avons pas d'initiative à prendre. Ah, voilà, nous n'avons pas d'initiative à prendre. Le Saint-Esprit lui-même n'en a pas à prendre. Mes amis, avez-vous noté ça dans les paroles du Seigneur, dans Jean 16 ? Il n'a pas d'initiative. Il n'annoncera rien de lui-même, a dit Jésus. Il prendra de ce qui est à moi, c'est-à-dire de l'œuvre accomplie, et il l'annoncera, il vous l'annoncera, mais il ne prendra aucune initiative. Et l'Église n'a pas d'initiative à prendre. Je dis cela parce qu'il y a une grosse erreur aujourd'hui à ce sujet-là, et l'on voudrait de tous les côtés, dans tous les milieux chrétiens, prendre toutes sortes d'initiatives. C'est comme ça que l'on ouvre la porte à l'hérésie, à l'apostasie, au monde, à toutes les mauvaises choses. L'Église est le corps de Christ qui ne peut que faire ce que la tête veut. Vous êtes bien d'accord? La tête, n'est-ce pas, Dieu a donné à l'Église Christ comme tête et comme chef. Et bien sûr, l'Église ne peut pas prendre des initiatives en dehors de son chef. Cela est très important. Dieu a concentré, donc, en son Fils, c'est-à-dire en un seul, la plénitude de son amour à l'égard de tous. Je n'ai pas lu le premier chapitre des Éphésiens jusqu'au bout, mais dans les versets 22 et 23, voici ce que nous avons. Il a tout mis sous ses pieds, au Seigneur Jésus. Dieu, le Père, qui est souverain, a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chers amis, quand vous méditez ces paroles, allez donc concevoir des initiatives. Allez donc concevoir quelque chose. Quand vous avez en Jésus la plénitude de tout, alors à la plénitude, vous ajoutez quoi? Qu'est-ce que vous ajoutez? Et si vous prenez des initiatives que j'appellerais latérales, c'est-à-dire des initiatives en vue d'accomplir la mission générale de l'Église, oui, eh bien, ces initiatives, si elles sont vraiment des initiatives, c'est-à-dire quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas inspiré, tout cela ne peut que retarder la marche de l'Église, voire même la contrarier. C'est une œuvre parfaite. Tout est accompli et l'œuvre, elle est parfaite. Une œuvre parfaite, parce qu'elle tient tout de Dieu, chers amis. Cette œuvre tient tout de Dieu. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Elle tient tout de Dieu, cette œuvre. L'œuvre accomplie. Et les conséquences de cette œuvre accomplie sont également parfaites. Et les conséquences de l'œuvre accomplie par le Christ, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est la transformation, métamorphousté en grec, la métamorphose, un véritable changement, c'est la paix, c'est la vérité, c'est la vie, c'est la résurrection, ce sont tout cela les conséquences de l'œuvre parfaite achevée par Jésus-Christ. Alors, si tout est accompli et qu'il n'y ait plus rien à faire, une œuvre accomplie, il n'y a plus rien à faire, la plénitude est là, en Christ qui est chef de l'Église, alors qu'est-ce que nous avons à faire, nous? Sommes-nous des gens immobiles? Sommes-nous des gens condamnés à s'asseoir sur les bancs ou les chaises et à ne rien faire? Non pas. Non pas. Une place, un travail nous est laissé. Alors il s'agit de savoir quel est ce travail et quelle est cette place. Eh bien, le Seigneur l'a dit lui-même et je ne prendrai de ses paroles qu'une seule expression. Elle est dans Luc 19 et verset 13. Faites-les valoir. Faites-les valoir. Les quoi? Les biens du maître. Le maître apporte ses biens, c'est-à-dire une œuvre accomplie et parfaite. dont les conséquences sont celles que nous venons de dire, et le Seigneur nous dit « Faites valoir cela ». Voilà le travail de l'Église. Faites valoir. Et puis je prends de lui une autre expression, une invitation. Vous serez mes témoins. Voilà deux choses qui définissent très suffisamment l'œuvre de l'Église. Faites valoir l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur. Et deuxièmement, soyez ses témoins par le moyen de la puissance du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Et si nous réunissons ces deux mots d'ordre, nous dirons « faites valoir l'œuvre accomplie en tant que témoin ». Ah, voilà. Vous ferez valoir l'œuvre accomplie en tant que témoin, c'est-à-dire dans le rôle, dans la mission de témoin. Et pour cette mission-là, vous êtes armés d'une plénitude du Saint-Esprit, d'une puissance survenant sur vous. Vous êtes armés d'une puissance. Alors n'allez pas chercher une autre puissance. N'allez pas chercher une autre intelligence que celle que donne le Seigneur. Le Seigneur veut nous demander de faire valoir l'œuvre guidée, conduite par le Saint-Esprit, lequel, Saint-Esprit, accomplit les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et l'Église fait cela avec le soutien et la direction du Saint-Esprit. Et quel est le témoignage? Vous êtes mes témoins. Eh bien, lorsqu'on lit cela dans le début du livre des Actes, au chapitre 1er, verset 8, « Vous serez mes témoins » qu'on examine la chose d'un peu près, aussi bien dans le texte original que dans la traduction, qu'on y réfléchit, que l'on fait des comparaisons, ce qu'il faut faire, c'est ça la méditation, c'est ça la recherche d'une connaissance utile. Eh bien, on arrive à cette conviction, c'est que être les témoins du Seigneur Jésus, c'est le remplacer, prendre sa place. Oui, prendre sa place. Vous savez que Moïse a dû prendre la place de Dieu, et que Aaron, son frère, prenait la place, lui, de prophète. Aaron sera ton prophète, et toi, tu vas prendre ma place, tu vas prendre la place de Dieu. C'était considérable, ça. Et Moïse était loin de se reconnaître les capacités de prendre la place de Dieu. Bien sûr, il s'agissait d'une certaine mission pour la mission qui était à faire auprès du Pharaon et auprès du peuple israélite. Moïse prenait la place de Dieu. Eh bien, nous, témoins, nous prenons la place du Christ Jésus. Vous serez mes témoins, vous serez d'autres moi-même. C'est vous qui allez me multiplier sur la terre. Vous allez multiplier Christ. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qu'il va recevoir. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi le Christ qu'il va écouter. Et en écoutant, en vous écoutant, en écoutant le Christ, il écoutera le Père. C'est immense, c'est magnifique, chers amis. Alors, je le répète, allez prendre des initiatives, vous. Allez prendre des initiatives. Mes amis, l'Église a besoin aujourd'hui de s'attacher au chef, comme dit Paul, s'attacher au maître, de tout recevoir de lui, les liens de l'assistance et tout recevoir de lui. C'est ça notre problème. Pour que nous soyons vraiment des témoins. Le monde a besoin de témoins. Il en a assez d'avoir des philosophes, d'avoir des gens qui parlent. Les radios, les télévisions ne font que ça. Je pense que sur la Terre, on en est presque arrivé à ce moment que nous décrit l'Apocalypse, où il y a des grenouilles, vous savez, des esprits de grenouilles. Alors les grenouilles, vous avez regardé une grenouille. C'est quand vous regardez une grenouille, elle ouvre la bouche, toute grande, n'est-ce pas? Des bouches. Et alors, ces trois esprits de grenouille, et c'est précisément la trinité satanique, cela, dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, ces trois esprits de grenouille, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent sur le monde, ils parlent. Voilà, aujourd'hui, déjà, le point où nous en sommes. Le monde en a assez des voix. Il en a assez. Et la confusion grandit dans le monde, on ne peut plus. Ce dont le monde a besoin, ce sont des témoins, d'authentiques témoins, qui, sous la pression, l'inspiration du Saint-Esprit, pourront vraiment parler comme Jésus, et de la part de Jésus. Manifester Jésus aussi, le manifester dans sa vie. Des témoins qui vont avoir la capacité spirituelle de réveiller la foi, de rendre les consciences réceptives de l'action divine, disposer les esprits à comprendre les appels de la grâce de Dieu, et des témoins qui ne feront pas la loi. Jésus n'a pas fait la loi, Jésus n'est pas venu juger, il est venu sauver. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Il viendra pour juger, au dernier jour. Mais là, il n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et l'Église, dans sa mission, qui est la mission de Christ, toujours en tant que chef de l'Église, eh bien, l'Église n'est pas venue pour juger le monde, elle est venue pour lui apporter le message de salut. Alors, pour nous-mêmes, et pour ceux qui nous voient ou qui nous écoutent, ceux pour lesquels nous sommes établis comme témoins, eh bien, nous nous appuyons sur une œuvre accomplie, une œuvre achevée, mais aussi sur l'œuvre vivante qui découle de l'œuvre accomplie et que Dieu poursuit dans le présent. Dieu poursuit donc cette œuvre qui consiste à faire valoir l'œuvre accomplie par Christ. Alors comment le Père fait-il? Parce que le Père est dans l'action aussi. Ne croyez pas que le Père ne soit plus dans l'action. Mon Père agit, et moi aussi j'agis, et l'Église agit. Mais elle agit en même temps que le Père, le Fils, l'Église agit. Mon Père agit, moi j'agis, et l'Église doit agir. Voyez les actes des apôtres, et ça, c'est à continuer, les actes des apôtres. Que fait le Père? Eh bien, le Père s'est réservé une fonction extraordinairement délicate, bien sûr. Celle de faire choix. Oui, le Père fait encore des choix dans ce monde. Il attire certains hommes à son Fils, d'autres, il ne les attire pas. Et cela se trouve dans l'évangile de Jean. Je ne peux pas bien tourner mes pages parce qu'il y a beaucoup de vent, mais vous devez avoir cela présent à l'esprit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 44 et au verset 65, le Seigneur Jésus dit, « Personne ne vient à moi si mon Père, qui est dans les cieux, ne l'attire. » Et lorsque des disciples s'en vont, parce qu'ils n'ont rien compris, ceux-là, ils n'ont rien compris, alors ils voudraient comprendre avant de croire. Alors ils s'en vont, ceux-là. Et à ce sujet, le Seigneur Jésus dit, « Voyez-vous ce que je vous avais dit? Personne ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire à moi. » Ces disciples-là n'avaient pas été attirés, ils étaient venus, ils avaient pris la place de disciples, mais ils sont incapables de continuer, ils sont incapables d'être pénétrés par la parole parce qu'ils ne sont pas attirés. Et on peut se dire, mais alors pourquoi le Père n'attire-t-il pas tout le monde? Eh bien, vous avez la réponse dans l'Écriture, plus d'une fois. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et dans le psaume 25, ce sont les humbles à qui Dieu montre toujours le chemin qu'ils doivent choisir. Choisir eux-mêmes, bien sûr. Mais Dieu leur montre toujours ce chemin. Les orgueilleux, il les abandonne. Il ne peut pas guider un cœur orgueilleux vers son fils. Il faut donc que l'orgueil s'abaisse. Le fils, lui, que fait-il? Le père lui donne des armes. Et vous, chers amis, qui êtes ici et qui êtes entrés dans la voie du salut, dans l'Église, sachez bien que le Père vous a attiré à son Fils. Vous n'êtes pas venu tout seul. Si on vous avait laissé tout seul, seriez allé ailleurs. Seriez pas venu. Mais c'est le Père qui vous a attiré, parce que à un moment, vous avez été très certainement brisé dans votre orgueil. Et à ce moment-là, le Père a choisi le moment pour vous attirer vers son Fils Jésus. Et que fait le Fils, puisque le Père lui donne des armes? Les hommes que tu m'as donnés, dit Jésus dans sa prière sacerdotale, que fait-il? Eh bien, le Fils, lui, a ses armes, il révèle le Père, et c'est lui qui conduit au Père. Il révèle le Père, il révèle Dieu, et il conduit à Dieu, non pas seulement à la fin des temps, mais maintenant, au cours de la vie chrétienne, chers amis, voilà encore quelque chose que doit produire notre vie chrétienne. Cette montée vers le Père, cette vue sur le Père, cette révélation du Père. Il révèle le Père et conduit au Père. Et c'est tellement beau qu'en annonçant cela, le Seigneur Jésus a frémi. Il a frémi en esprit. Je te loue, Père, de ce que tu aies voulu que les choses soient ainsi. Et il a bien précisé que ce sont les petits-enfants, les enfants, et non pas les intelligents, les raisonneurs, les gens qui sont juchés sur leur superbe, sur leur orgueil, les gens qui se croient une personnalité, les gens qui se croient forts, les gens qui veulent tout raisonner. Ceux-là, non! Le Christ n'a rien à leur révéler. Mais il révèle aux petits-enfants, bien sûr dans un sens figuré, mais quelquefois dans un sens direct aussi, sens littéral. Vous savez que Dieu choisit beaucoup sur la terre des petits-enfants. Oui, il choisit des petits-enfants. Et vous qui êtes ici, si vous êtes parents, pensez à cela, que Dieu voudrait certainement choisir vos enfants. Mais vous êtes pour quelque chose. Vous allez peut-être faire obstacle à l'œuvre de Dieu, ou vous allez la faciliter. Mais pour cela, il vous faudra vivre devant vos enfants une authentique vie de foi. Et le Saint-Esprit, lui, mène cette double action. Il est au service du Père, il est au service du Fils, si je puis dire. Le Saint-Esprit, donc, attire les âmes à Christ quand le Père le veut. Et puis, le Saint-Esprit, alors, lui, il est là, il prend de ce qui est à Christ et il l'annonce. Et le Saint-Esprit, chers amis, travaille continuellement. Le Saint-Esprit ne s'arrête jamais. Il travaille continuellement, et où ça? En tout cœur d'homme. C'est ce que Jésus nous a annoncé. Le Saint-Esprit annoncera au monde. Il annoncera au monde le péché, justice et jugement. Le Saint-Esprit convainc le monde, apporte au monde quelque chose que le monde peut certes rejeter, mais qu'il ne peut pas, dont il ne peut pas éluder l'apparition dans sa pensée, dans son cœur. Et chers amis, j'ai plus d'un exemple de cela, plus d'un exemple d'homme de notre époque qui n'ont pas accepté Jésus. Oui, des hommes qui n'ont pas accepté. Ceux qui ont accepté, c'est pas la peine que j'en parle, il y en a ici, n'est-ce pas? Mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus, et qui cependant ont pu fournir eux-mêmes la preuve que le Saint-Esprit ne les avait pas laissés indifférents ni au dehors. Des athées, vous entendez bien, des athées, vous savez ce que c'est qu'un athée? C'est quelqu'un qui a pris pour principe d'écarter de lui Dieu et qui même veut nier l'existence de Dieu. Nier, la plupart du temps, verbalement, parce qu'au fond de son cœur, il ne le peut pas. Je vois par exemple cet homme qui a été si bien connu et qui avait d'ailleurs présenté un intérêt certain pour tout le monde par ses livres, ses écrits, cette intelligence qu'il avait, c'était Jean Rostand. Jean Rostand, académicien et biologiste. Eh bien, lui, il avait pris la position, il n'est plus de ce monde maintenant, il avait pris la position d'être agnostique. Il se voulait agnostique, c'est-à-dire ne s'occupant pas d'une éventuelle existence de Dieu. Ben, il tenait ça hors de lui. Bon, il avait résolu, il a dit, moi je ne veux pas m'occuper de ça. Ça, c'est quelque chose qui échappe à la raison humaine, par conséquent, ça m'intéresse pas, je ne veux pas en connaître. Voilà la position de l'agnostique. Elle est très voisine de celle de l'athée. Et alors, comme il était sincère, cet homme-là, comme il parlait pas mal, et il avait une certaine franchise. Et il a, à plusieurs reprises, fait des déclarations qui ont révélé l'état intérieur de son cœur. D'abord, un jour, il disait à un journaliste, il disait, vous savez, je reçois beaucoup de monde le dimanche après-midi chez moi. Il avait une belle maison, grande maison, et comme biologiste très connu, comme académicien, vous pensez que... Et puis enfin, il était héritier d'un nom très connu, Rostand. Alors, il avait beaucoup de visiteurs, et il aimait cela, il recevait beaucoup. Alors, il disait à ce journaliste, « Chez moi, le dimanche après-midi, il y a beaucoup de monde, des intellectuels, des écrivains, des penseurs, des académiciens aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de monde, je reçois beaucoup d'amis. Et il n'y a pas d'endroit où l'on parle davantage de Dieu que chez moi. Alors que tous sont comme moi, des agnostiques. Mais il n'y a pas d'endroit où l'on parle davantage de Dieu. Une autre fois, il confiait aussi à un journaliste ceci. Moi, j'ai dit non à Dieu. Ce sont ses termes, exact. Ce sont ses propres termes. J'ai dit non à Dieu. Bon. Ça, c'est formel. J'ai dit non à Dieu. Mais je n'en suis pas plus tranquille pour cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui me travaille. Je ne sais pas si c'est, comme il disait, le non-Dieu. C'est-à-dire le fait d'avoir fait table rase de Dieu et d'avoir voulu que l'horizon soit complètement déchargé, si vous voulez, de cette présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est le non-Dieu ou si c'est Dieu, mais toujours est-il que je suis travaillé, toujours est-il que je reviens sans cesse à cette pensée-là, j'en suis vraiment obsédé. Et il disait même ceci, ça me fait presque radoter. C'est quelque chose, cela. Un homme qui dit non à Dieu, et qui veut ne plus rien avoir à faire avec Dieu, et qui est constamment travaillé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le Saint-Esprit, mes amis. Le Saint-Esprit. Et j'en connais d'autres. Eugène Ionesco, par exemple. Eugène Ionesco, qui lui a pris position parmi les athées, un grand écrivain académicien lui aussi. Et Eugène Ionesco, qui a 17 ans, une première fois, puis à 30 ans, une autre fois, de son propre aveu, ça a été écrit dans un livre d'un journaliste. Et par conséquent, c'est ce livre, même avant d'être imprimé, a été soumis à cette, notamment à cet académicien, n'est-ce pas? Et il a par conséquent lui-même revu et approuvé le texte de ce livre. Alors, vous voyez comme le témoignage, n'est-ce pas? Et ce témoignage est quelque chose de sûr. Eh bien, Eugène Ionesco, à 17 ans, puis à 30 ans, déclare avoir eu là un appel. Alors, le journaliste Christian Chabanis, s'appelait Christian Chabanis, lui dit, mais qui vous a appelé comme cela? Puisque vous ne croyez à personne, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, qui vous a appelé? Mais, lui a dit Ionesco, c'est Jésus-Christ qui m'a appelé, mais vous ne croyez pas en lui. Oui, mais je ne crois pas, mais il existe quand même. La preuve, c'est qu'il m'a appelé, et il m'a appelé longuement. Alors, pourquoi n'avez-vous pas cédé? Oh, il a dit, à 17 ans, j'étais dans les études, il y avait ma famille qui m'a entraîné. Alors, j'ai pas pu résister. Et puis, à l'âge de 30 ans, j'avais bien sûr fini mes études à ce moment-là, mais j'étais au seuil de la réussite. Et j'étais partagé entre deux tendances, deux appels aussi pressants l'un que l'autre. D'un côté, c'était cet appel qui a duré plusieurs semaines de Jésus-Christ, qui me voulait à lui, qui m'appelait, et quand je laissais venir en moi cet appel, je sentais un bonheur particulier, un bonheur merveilleux, je me plaisais à goûter ce bonheur. Et puis, de l'autre côté, d'un autre côté, alors un autre appel, oui, m'était-il dit, mais tu vas être célèbre, tu es armé pour être célèbre, et étant célèbre, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu sais bien que tu aimes la vie. Et cet auteur de le déclarer, j'aime la vie, j'aimais la vie, je voulais mordre à pleines dents dans la vie. Et alors, de ce côté-là, c'était la sollicitation vers le monde, vers l'argent, vers la célébrité. Et je suis resté comme ça, étiré d'un côté et de l'autre, pendant un temps. De quel côté allais-je céder? Et j'ai cédé du côté du succès, du côté du monde. J'ai cédé de ce côté-là. Et alors que cet homme a maintenant plus de 70 ans, savez-vous ce qu'il déclarait à Chabanis? Il déclarait exactement ceci, je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai eu le succès, j'ai eu l'argent, j'ai goûté à tout. Mais je suis le plus malheureux de tous les hommes. Qui me tirera de ce bas? Il dit cela. Alors, chers amis, il y en a d'autres encore, je ne vais pas vous passer toute la journée à vous raconter ces témoignages-là qui sont très intéressants, moi je j'y suis attentif, parce que je vois là vraiment l'œuvre du Saint-Esprit sur les hommes, et non pas seulement sur ceux que Dieu va attirer, mais sur ceux que Dieu n'attire pas parce que ils font ce choix-là, parce qu'ils restent attachés au monde, parce que leur orgueil ne veut pas démordre. Alors, le Saint-Esprit convainc le monde. Plus exactement dans le texte original, le Saint-Esprit travaille le monde. Dieu n'est pas inactif. Toute âme humaine est sollicitée par une action divine qui la cherche toujours. Dieu a cherché les hommes. Et quand ils comparaîtront au jugement, eh bien, aucun d'eux ne pourra dire, ah Seigneur, moi j'ai pas su, si j'avais su, ce qu'était l'Évangile, si j'avais su qu'on pouvait être changé, qu'on pouvait vivre heureux comme ça, et qu'on héritait cette vie éternelle, mais je serais venu. Aucun ne pourra dire cela. Tu as eu ta part. Dieu ne t'a pas laissé de côté. Il t'a appelé, il t'a convaincu. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour conclure, nous dirons ceci. C'est que jamais les saintes écritures ne s'écartent de la ligne que suit l'œuvre du salut telle que nous venons d'en voir maintenant l'esquisse. Il nous est dit par la foi, maintenez-vous dans l'amour de Dieu par le moyen de la foi. Maintenez-vous dans l'amour, ce qui veut dire aussi dans l'obéissance, car il n'y a pas d'amour sans obéissance. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, à celui qui peut vous préserver de toute chute, à Dieu seul, soyez fidèles. L'Évangile ne nous promet pas la victoire personnelle contre le péché, vous entendez bien, ne nous permet pas la victoire personnelle contre le péché par le secours de Christ, mais par la foi en Christ. C'est tout à fait différent, par la foi authentique, c'est-à-dire par une foi qui nous unit à Christ, par une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est la victoire qui triomphe du monde, comme dit Jean, cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais attention, si l'on dit, ah ben moi je suis chrétien, ben un chrétien, bon, il connaît Jésus-Christ, il a le nom de Jésus dans la bouche, il prie au nom de Jésus, alors Jésus doit faire tout dans ma vie, il doit tout arranger, tout régler, j'ai pas à m'en soucier, j'ai rien à faire. Ça, ce n'est pas la vraie foi. La foi s'attache au Seigneur. La foi maintient un lien avec Jésus-Christ, et c'est alors que ce lien est établi, que la victoire est remportée sur le péché et sur la mort. Et c'est pourquoi Jean dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire de toutes les forces hostiles, mauvaises, du péché, la victoire qui triomphe de tout cela, c'est notre foi. C'est Jésus-Christ, et lui seul, qui a vaincu le péché et la mort, c'est lui qui peut le vaincre en nous, mais il faut le laisser venir en nous. Il ne fait pas son œuvre à côté de nous. Il fait son œuvre lorsqu'il est en nous. Or, Jésus-Christ était avant nous, il nous a devancés, il nous devance toujours, il nous a devancés dans la victoire contre le péché, contre la mort, il nous a devancés dans la résurrection, ce qui est exprimé par le prophète Ésaïe de la manière suivante, l'Éternel marche devant. L'Éternel est la marche devant, et encore, il ferme la marche derrière, que l'ennemi pourrait venir derrière. Alors, il ferme la marche derrière, il est devant. Chers amis, à nous de nous placer dans cette marche avec l'Éternel, le Seigneur Jésus, et que son nom soit béni ce matin au milieu de nous. Amen.